Bienvenue dans cette actualité du pape. Commençons par l'audience générale qu'a donnée notre Saint-Père le pape François, place Saint-Pierre, ce mercredi 15 mars. C'est la catéchèse, la passion pour l'évangélisation. Le thème de cette catéchèse est celui-ci, être apôtre dans une église apostolique. En voici la retranscription intégrale. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous poursuivons les catéchèses sur la passion d'évangéliser. Non seulement sur évangéliser, mais la passion d'évangéliser. Et, à l'école du Concile Vatican II, essayons de mieux comprendre que signifie être apôtre aujourd'hui. Le mot apôtre évoque le groupe des 12 disciples choisis par Jésus. On appelle parfois apôtres certains saints, ou plus généralement les évêques. Ils sont apôtres parce qu'ils vont au nom de Jésus. Mais sommes-nous conscients que la fonction d'apôtre concerne chaque chrétien? Sommes-nous conscients que cela concerne chacun d'entre nous? En effet, nous sommes appelés à être apôtres, c'est-à-dire envoyés, au sein d'une église que nous professons apostolique dans le credo. Que signifie donc être apôtre? C'est être envoyé pour une mission. L'événement exemplaire et fondateur est celui où le Christ ressuscité envoie ses apôtres dans le monde, leur transmettant le pouvoir qu'il a lui-même reçu du Père et leur donnant son esprit. Nous lisons dans l'évangile de Jean, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit-Saint. » Un autre aspect fondamental de l'identité de l'apôtre est la vocation, c'est-à-dire l'appel. Il en a été ainsi dès le début. Lorsque le Seigneur Jésus appela ce qu'il voulait, ils vinrent auprès de lui. Il les constitua comme groupe en leur donnant le titre d'apôtre pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer en mission. Saint Paul se présente ainsi dans ses lettres, « Paul, appelé pour être apôtre, c'est-à-dire envoyé. » Et encore, « Paul, serviteur du Christ Jésus, apôtre envoyé par l'appel, mis à part pour l'évangile de Dieu. » Et il insiste sur le fait d'être apôtre non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Dieu l'a appelé dès le sein de sa mère pour annoncer l'Évangile parmi les nations. L'expérience des 12 apôtres et le témoignage de Paul nous interpellent également aujourd'hui. Il nous invite à vérifier nos attitudes, à vérifier nos choix, nos décisions, à partir de ses repères. Tout dépend d'un appel gratuit de Dieu. Dieu nous choisit également pour des services qui parfois semblent dépasser nos capacités ou ne pas correspondre à nos attentes. À l'appel reçu, comme don gratuit, il faut répondre gratuitement. Le Concile dit « La vocation chrétienne est aussi par nature vocation à l'apostolat. » C'est un appel qui est commun, comme est commune la dignité des membres du fait de leur régénération dans le Christ. Commune la grâce d'adoption filiale, commune la vocation à la perfection. Il n'y a qu'un salut, une espérance, une charité indivisible. C'est un appel qui concerne aussi bien ceux qui ont reçu le sacrement de l'ordre, les personnes consacrées, que chaque fidèle laïc, homme ou femme, c'est un appel à tous. Toi, le trésor que tu as reçu avec ta vocation chrétienne, tu dois le donner. C'est la dynamique de la vocation. C'est la dynamique de la vie. C'est un appel qui permet d'accomplir sa propre tâche apostolique de manière active et créative, au sein d'une église où il y a diversité de ministères, mais unité de mission. Le Christ a confié aux apôtres et à leurs successeurs la charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverner en son nom et par son autorité. Mais aussi, les laïcs, vous tous, la majorité d'entre vous, vous êtes laïcs. Également les laïcs, rendus participants de la charge sacerdotale, prophétique et royale du Christ, assument leur part dans ce qui est la mission du peuple de Dieu tout entier, dans l'Église et dans le monde. Dans ce cadre, comment le Concile comprend-il la collaboration des laïcs avec la hiérarchie? Comment l'envisage-t-il? S'agit-il d'une simple adaptation stratégique à de nouvelles situations qui surviennent? Pas du tout, rien de cela. C'est bien plus quelque chose qui dépasse les contingences du moment et conserve sa propre valeur, même pour nous. L'Église est ainsi. Elle est apostolique. Dans le cadre de l'unité de la mission, la diversité des charismes et des ministères ne doit pas donner lieu, au sein du corps ecclésial, à des catégories privilégiées. Il ne s'agit pas d'une promotion. Et lorsque tu conçois la vie chrétienne comme une promotion, que celui qui est au sommet commande les autres parce qu'il a réussi à se hisser plus haut, ce n'est pas le christianisme. C'est du paganisme pur. La vocation chrétienne n'est pas une promotion pour se hisser plus haut, non. C'est autre chose. Et c'est une chose importante, car même si certains, par la volonté du Christ, sont établis dans une position peut-être plus importante, docteurs, dispensateurs des mystères et pasteurs pour le bien des autres. Cependant, quant à la dignité et à l'activité commune à tous les fidèles dans l'édification du corps du Christ, il règne entre tous une véritable égalité. Qui a le plus de dignité dans l'Église? L'évêque? Le prêtre? Non. Nous sommes tous des chrétiens au service des autres. Qui est le plus important dans l'Église? La religieuse ou le simple baptisé? L'enfant? L'évêque? Tous sont égaux, nous sommes égaux. Et quand l'une des parties se croit plus importante que les autres et se met un peu le nez en l'air, elle se trompe. Ce n'est pas la vocation de Jésus. La vocation que Jésus donne à tous, mais surtout à ceux qui semblent occuper des positions plus élevées, est le service. Le service des autres, dans l'humilité. Si tu vois une personne qui dans l'Église a une vocation plus haute et que tu la vois être vaniteuse, tu diras le pauvre. Prie pour elle, parce qu'elle n'a pas compris ce qu'est la vocation de Dieu. La vocation de Dieu est l'adoration du Père, l'amour pour la communauté et le service. C'est cela être apôtre, c'est cela le témoignage des apôtres. La question de l'égalité en dignité nous invite à repenser de nombreux aspects de nos relations, qui sont décisifs pour l'évangélisation. Par exemple, sommes-nous conscients que par nos paroles, nous pouvons porter atteinte à la dignité des personnes, détruisant ainsi les relations au sein de l'Église? Alors que nous essayons de dialoguer avec le monde, savons-nous aussi dialoguer entre nous croyants? Ou bien, est-ce que dans la paroisse, l'un va contre l'autre, l'un fait des commérages sur l'autre pour se hisser plus haut? Savons-nous écouter pour comprendre les raisons de l'autre? Ou nous imposons-nous, peut-être même avec des paroles doucereuses? Écouter, s'humilier, être au service des autres, c'est cela servir, c'est cela être chrétien, c'est cela être apôtre. Chers frères et sœurs, n'ayons pas peur de nous poser ces questions. Fuyons la vanité des postes. Ces paroles peuvent nous aider à examiner comment nous vivons notre vocation baptismale, comment nous vivons notre manière d'être apôtre, dans une église apostolique qui est au service des autres. Le cardinal Cantalamessa, Messa, prédicateur de la maison pontificale, a prononcé ce vendredi sa deuxième prédication de carême. À cette occasion, il s'est focalisé sur l'évangile qu'il qualifie de puissance de Dieu pour qui croit en lui, et l'importance de la rencontre personnelle avec le Christ dans un monde caractérisé par différentes perceptions de la foi. À partir de Evangelii Nuntiandi, de Saint Paul VI, jusqu'à Evangelii Gaudium de l'actuel souverain pontife, le thème de l'évangélisation a été au centre du magistère pontifical, a d'abord déclaré le cardinal Cantalamessa. Rappelons l'importance de cette thématique dans la vie de l'Église et des croyants aujourd'hui. C'est à l'évangélisation que je voudrais consacrer cette méditation, a-t-il précisé. Les apôtres sont définis comme ceux qui vont évangéliser dans l'Esprit-Saint. Et c'est là qu'est exprimé l'essentiel de l'évangélisation, à savoir son contenu, l'Évangile, et sa méthode dans l'Esprit-Saint, a précisé le prédicateur de la maison pontificale. Il a précisé que pour savoir ce que l'on entend par « Évangile », le moyen le plus sûr est de demander à celui qui, le premier, a employé ce mot grec et l'a rendu normatif dans le langage chrétien, l'apôtre Paul. Le cardinal, quant à la Messa, a ainsi invité à l'imitation des apôtres dans leur méthode, afin que tout effort de nouvelle évangélisation puisse porter du fruit. Il faut, sous la conduite de l'Esprit-Saint, savoir guider le peuple de Dieu comme l'a fait saint Paul, alertant sur les mauvaises conduites et encourageant à suivre la voie de Dieu. Dans sa prédication, a rappelé le cardinal Cantalamessa, Paul poursuit son réquisitoire en montrant les fruits qui découlent sur le plan moral du rejet de Dieu. C'est une dissolution générale des mœurs, un véritable torrent de perdition qui entraîne l'humanité à la ruine. Le prédicateur de la maison pontificale a fustigé les dérives de notre humanité dans laquelle l'homme veut chasser Dieu de côté pour devenir son propre créateur et sauveur, refusant de reconnaître que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui. Il tombe ainsi dans le péché qui est une tentative de la part de la créature d'effacer la différence infinie qui existe entre elle et Dieu. Le fait d'étouffer la vérité dans l'injustice. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Si les hommes savaient de leur vivant, comme ils le sauront au moment de leur mort, ce que signifie le rejet de Dieu, ils en mourraient d'effroi, regrette-t-il. Ce que propose l'Évangile ne consiste pas à s'engager dans un combat pour la réforme morale de la société, mais pour la correction de ses vices, a précisé le cardinal quant à la messe. C'est cela l'évangélisation, qui pour lui ne commence pas par la morale, mais par le kérigme. D'après saint Paul, tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, et lui gratuitement. Les fait devenir juste par sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. C'est ce qu'enseigne l'apôtre Paul, après avoir décrit la situation désespérée de l'humanité, affirmant que seule une intuition de l'Esprit-Saint, un éclair, pouvait donner à un homme l'audace de croire et de proclamer cette chose inouïe, l'Évangile. C'est cela l'œuvre de la grâce divine accomplie en la personne de Jésus. Ainsi, le remède consiste à retourner à une meilleure observance de la loi. Ce remède, a-t-il poursuivi, n'est ni en haut ni en arrière. Il est en avant, il est dans l'accueil de la rédemption opérée par le Christ Jésus. Le monde séculier s'efforce de tenir le nom de Jésus éloigné ou caché dans tout discours sur l'Église, a souligné le cardinal italien. Il a ensuite mentionné l'invitation lancée par Evangelii Gaudium aux chrétiens. En quelques lieux et situations où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Nous sommes maintenant entrés, grâce à Dieu, dans une nouvelle phase où nous nous efforçons de voir les différences, non pas nécessairement comme incompatibles entre elles et donc à combattre, mais dans la mesure du possible comme des richesses à partager. Dans ce monde marqué par différentes manières de voir et de concevoir, il est important de vivre cette rencontre personnelle avec Jésus et de l'accepter comme son sauveur personnel. Le pape François a reçu en audience les participants au congrès de formation de la chaire de l'hospitalité organisé par la Fraterna Domus de Sacrofano ce jeudi 9 mars dans la salle du consistoire du Palais Apostolique. Dans son discours, le pape s'est référé à son encyclique Fratelli Tutti, la désignant comme un appel à penser et à générer un monde ouvert. Voici le discours du pape François. Je remercie Sœur Milena Pizziolo pour ses paroles et vous salue tous, vous, qui participez au colloque de formation de la chaire de l'hospitalité, organisée par les sœurs de la Fraterna Domus. Je veux avant tout vous féliciter, chères sœurs, pour cette initiative par laquelle vous avez mis votre charisme, votre expérience et vos structures au service de ceux qui, de diverses manières, travaillent dans le domaine de l'hospitalité. Un domaine riche de valeurs et de spiritualité, mais aussi traversé par les drames de notre temps. Je partage avec vous quelques réflexions en me référant à l'encyclique Fratelli Tutti. L'accueil est l'un des traits qui caractérise ce que j'ai appelé un monde ouvert. L'encyclique est un appel à penser et générer un monde ouvert, contre la fermeture de sacristie que nous avons parfois. Et vous répondez à cet appel. Vous le faites par le travail que vous réalisez chaque jour, sans clameur, sans allumer les projecteurs. Et vous le faites aussi à travers ces rencontres de formation. En effet, pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir générer de l'accueil, il faut aussi penser l'accueil. C'est la grande valeur des moments comme celui que vous vivez, où vous approfondissez ensemble différents aspects, anthropologiques, éthiques, religieux, historiques. Mais votre chaire n'est pas un laboratoire aseptisé où l'on élabore des formules abstraites. C'est un moment de réflexion inséparable du travail sur le terrain. Cela va ensemble. Tout en écoutant et en étudiant, vous gardez à l'esprit les visages, les histoires, les problèmes concrets et vous les partagez avec les conférenciers et dans les groupes de discussion. C'est très important. Revenons à l'encyclique. Deux passages me semblent particulièrement intéressants pour vous. Je me concentrerai sur eux. Le premier se trouve au chapitre 3, sous le titre « L'ouverture progressive de l'amour ». Je le cite « L'amour nous met enfin en tension vers la communion universelle. Personne ne mûrit ni n'atteint sa plénitude en s'isolant. De par sa propre dynamique, l'amour exige une ouverture croissante, une plus grande capacité à accueillir les autres, dans une aventure sans fin qui oriente toutes les périphéries vers un sens réel d'appartenance mutuelle. Jésus nous disait « Tous, vous êtes des frères. » L'accueil est une expression de l'amour, de ce dynamisme d'ouverture qui nous pousse à prêter attention à l'autre, à chercher le meilleur pour sa vie, et qui dans sa pureté, et la charité infusée par Dieu. Dans la mesure où elle est imprégnée de cette attitude d'ouverture et d'accueil, une société devient capable d'intégrer tous ses membres, même ceux qui, pour diverses raisons, sont des étrangers existentiels ou des exilés cachés, comme le sont parfois les personnes handicapées ou les personnes âgées, par exemple. Sur cet aspect de l'amour, la référence fondamentale est la première encyclique de Benoît XVI, Deus Caritas Est. Le deuxième passage de Fratelli Tutti que je vous propose est le numéro 141. Je le cite en entier. La vraie qualité des différents pays du monde se mesure par cette capacité de penser, non seulement comme pays, mais aussi comme famille humaine. Et cela se prouve particulièrement dans les moments critiques. Les nationalismes fondés sur le repli sur soi traduisent en définitive cette incapacité de gratuité. L'erreur de croire qu'on peut se développer à côté de la ruine des autres, et qu'en se fermant aux autres, on est mieux protégé. Le migrant est vu comme un usurpateur qui n'offre rien. Ainsi, on arrive à penser naïvement que les pauvres sont dangereux ou inutiles, et que les puissants sont de généreux bienfaiteurs. Seule une culture sociale et politique qui prend en compte l'accueil gratuit pourra avoir de l'avenir. Nous sommes au chapitre 4, intitulé « Un cœur ouvert au monde entier », où il est question de la gratuité qui accueille. L'aspect de la gratuité est essentiel pour générer la fraternité et l'amitié sociale. Je souligne pour vous la dernière phrase. Seule une culture sociale et politique qui prend en compte l'accueil gratuit pourra avoir de l'avenir. L'accueil gratuit. On parle souvent de la contribution que les migrants donnent ou peuvent donner aux sociétés qui les accueillent. C'est vrai et c'est important. Mais le critère fondamental ne réside pas dans l'utilité de la personne, mais dans la valeur en soi qu'elle représente. L'autre mérite d'être accueilli, non pas tant pour ce qu'il a ou peut avoir ou peut donner, mais pour ce qu'il est. J'ai toujours été frappé dans l'Ancien Testament par la récurrence dans les prophètes, dans les livres historiques, des trois personnes pour lesquelles il faut prendre un soin particulier. La veuve, l'orphelin et le migrant. Et cela se répète dans le Deutéronome, dans l'Exode. Dans l'Exode pas tellement, mais dans le Deutéronome, dans le Lévitique, cela se répète. L'attention, le soin pour les veuves, pour les migrants, pour les orphelins. C'est récurrent. Par exemple, si vous moissonnez, ne repassez pas. Ce qui reste là, ce qui est laissé là, laissez-le à la veuve, à l'orphelin, à l'immigré. Il y a toujours cela. Il est important de reprendre cette tradition d'accueil de ceux qui n'ont pas ou qui sont dans une situation difficile. Chers frères et sœurs, je vous laisse avec ces éléments de réflexion et je vous encourage à poursuivre votre chemin de formation afin que vous puissiez toujours mieux vivre l'accueil et promouvoir une culture de l'accueil. Que la Vierge vous accompagne. Je vous bénis de tout cœur et vous demande de prier pour moi. Le pape François a accordé une interview exclusive pour le 10e anniversaire de son pontificat au journaliste Paolo Rodari de la radio-télévision suisse de langue italienne. Et la question n'a pas manqué. Qu'est-ce qui pourrait pousser le pape à démissionner? Une fatigue qui ne te permet pas de voir clairement les choses, le manque de clarté, de savoir évaluer les situations et aussi, peut-être, le problème physique, a répondu le souverain pontife. Sur ce dernier point, il dit suivre les conseils qu'il demande toujours à ceux qui le connaissent, notamment certains cardinaux intelligents, dit-il avec humour. Et ils me disent la vérité. Continue, ça va, mais s'il te plaît, crie tant qu'il est temps. Le pape argentin, qui a fêté ses 86 ans en décembre dernier, admet cependant qu'il ressent le poids de l'âge et qu'il a moins de résistance physique. Son problème au genou, qui semble se résorber maintenant, a été une humiliation physique. J'avais un peu honte d'être en fauteuil roulant, avoue-t-il. Parmi les questions personnelles, l'ancien archevêque de Buenos Aires, habitué à utiliser les moyens de transport public de la capitale argentine, reconnaît que ce qui lui manque aujourd'hui, c'est de marcher, d'aller dans la rue. « Je marchais beaucoup, » dit-il. « Je prenais le métro, le bus, toujours avec les gens. » Quant à son choix d'habiter à la maison Sainte-Marthe, le pape François redit ce qu'il a toujours affirmé, son besoin de voir du monde. Deux jours après mon élection, je suis allé prendre possession du palais apostolique. Il n'est pas très luxueux. Il est bien fait, mais il est énorme. La sensation que j'ai eue était comme celle d'un entonnoir à l'envers. psychologiquement. Je ne supporte pas cela. Je suis passé par hasard devant la chambre où j'habite et j'ai dit « Je reste ici. » C'est un hôtel. 40 personnes qui travaillent à la curie y habitent. Il y vient des gens de partout. Autre question. Ayant fait couler un peu d'encre ces derniers temps, la relation avec le pape émérite Benoît XVI, logé jusqu'à sa mort au monastère Mater Ecclesiae, dans les jardins du Vatican. C'est un homme de Dieu. Je l'aime beaucoup, déclare le pape François, qui évoque leur dernière rencontre à Noël. Il ne pouvait quasiment plus parler. Il parlait très 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 bas. Il fallait que quelqu'un traduise ses paroles. Il posait des questions, il était lucide. Comment va un tel? Et ce problème? Il était au courant de tout. C'était un plaisir de parler avec lui. Je lui demandais son avis. Il donnait son avis, mais toujours équilibré, positif, un sage. Mais la dernière fois, on voyait que c'était la fin. Que signifie, pour le pape François, d'être appelé le pape des plus petits? Il est vrai, répond le pape François, que j'ai une préférence pour ceux qui sont rejetés. Mais cela ne signifie pas que je rejette les autres. Les pauvres sont les bien-aimés de Jésus. Mais Jésus ne renvoie pas les riches. Personne n'est exclu, poursuit le pape, qui rappelle que le Christ invite tout le monde. Les malades, les bons et les mauvais, les petits et les grands, les riches, les pauvres, tous. Et d'insister. L'Église n'est pas une maison pour quelques-uns. Elle n'est pas sélective. C'est cela, le saint peuple fidèle de Dieu. Tous. Ainsi se termine Actualité du Pape. Merci de votre attention. Chers auditeurs, c'était notre émission Actualité du Pape. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.